Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Louis Duteuil pour une émission qui va être passionnante sur un sujet qui m'anime et qui nous anime tous également, qui est le sujet de l'immobilier, mais avec un angle particulier qui change aussi un petit peu, l'immobilier fractionné, l'immobilier de biens atypiques, je peux le dire ainsi, tu en diras un petit peu plus. Bonjour Louis, ravi de te recevoir sur le podcast de La Bonne Fortune.
Salut Ismaël, écoute, je suis super content d'être là, d'échanger avec toi et hâte de parler un petit peu de Street, de l'immobilier fractionné et puis de notre thèse d'investissement aussi.
Comme tu le dis, je ne l'ai pas dit encore, tu es le cofondateur de Street, où vous êtes 6 ou même 7 associés, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu peux, juste en deux mots, tu le feras beaucoup mieux que moi, te présenter et expliquer un petit peu ton cheminement, ce qui t'a amené à être aujourd'hui un des cofondateurs de Street.
Écoute, avec grand plaisir. Donc, moi, je m'appelle Louis, j'ai 27 ans. Ça va faire bientôt 6 ans que je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. D'abord à la suite d'une expérience pour un grand groupe qui était plutôt du côté de la logistique et de la mobilité électrique. Okay. Et ensuite aussi, j'ai travaillé pour un grand groupe hôtelier français, Accor, pour ne pas les nommer. Et forcément, je me suis beaucoup intéressé à des projets de développement hôtelier. Et enfin aussi, pour faire le lien avec l'aventure Street, pourquoi je me suis intéressé à l'immobilier et à l'immobilier fractionné. Parce que j'ai pris conscience en sortant de mon programme à HEC Entrepreneur qu'il était important de trouver des nouveaux moyens de financer des projets. Et tout ce qui était lié au financement participatif m'avait beaucoup intéressé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mes associés actuels.
Un parcours HEC Entrepreneur. Juste là-dessus, il y a plusieurs branches spécifiques. Et là, c'était une branche entrepreneur. Tu peux juste développer par curiosité.
Oui, bien sûr. En fait, c'est un programme qui dure un an et qui est très axé vers la création d'entreprise. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'examen au sens classique du terme. On est tout de suite conditionné dans des missions pratiques pour des startups ou des scale-up françaises et à la possibilité aussi, donc dès le deuxième semestre, de lancer son activité en lien avec des incubateurs comme Station F, par exemple. Et déjà, à l'époque, j'avais un projet qui était lié à l'immobilier, qui était un projet de co-living B2B. C'était vraiment le fil rouge de mon parcours, à la fois l'immobilier et aussi l'industrie de l'hospitalité en général.
Donc ce parcours t'amène à rencontrer tes associés aujourd'hui. Oui, donc vous êtes 6, 7 chez Street.
C'est ça, on est 7 en tout. Moi, en fait, j'ai rencontré mes associés parce que j'étais en recherche de partenaires pour financer ce type de projet immobilier. Et pour te décrire notre équipe fondatrice, en fait, on a trois compétences très fortes aujourd'hui. J'ai des associés qui sont très expérimentés, qui ont 15-20 ans d'expérience dans l'immobilier. J'ai d'abord deux associés qui sont spécialistes du financement obligataire, mais on y reviendra, c'est au cœur de notre solution en immobilier fractionné, puisqu'en fait on investit en souscrivant à des obligations. J'ai deux associés aussi qui sont experts de la gestion et de l'investissement immobilier, qui gèrent une foncière privée à Paris et aussi un petit peu en première couronne.
Okay.
Et j'ai enfin aussi un associé qui est spécialiste, lui, de la gestion de patrimoine. Qui a toute cette expérience aussi en conseil en investissement financier. Et c'est toute cette compétence qu'on a mis en fait autour de la table pour proposer des opérations qui étaient historiquement réservées aux professionnels, notamment à Paris pour de l'immobilier commercial. On voulait vraiment pouvoir les proposer à différents types d'investisseurs avec des tickets d'entrée beaucoup plus accessibles pour être capable d'intéresser les investisseurs, les particuliers, les épargnants français avec des classes d'actifs qui étaient les plus performantes aujourd'hui.
Ok, cool. Cette appétence, déjà, c'est ces trois compétences, hein, d'une part, on va dire juridique, avec les associés qui ont le background sur les missions obligataires, une compétence purement métier, foncier, immobilier, et également Également une autre compétence un peu organisation, gestion patrimoniale dans son ensemble, on va dire.
Exactement.
Donc tu t'es bien entouré tout de suite.
Ouais, en effet, comme tu le disais, je pense que la force de Stryl, c'est vraiment la qualité de l'équipe fondatrice, l'expérience de mes associés. Parce qu'en fait, on est capable de maîtriser toute la chaîne pour nos investisseurs aujourd'hui, que ce soit à la fois donc, sur le sourcing des opportunités d'investissement, trouver les bons biens, notamment à Paris, qui est un marché avec ses spécificités, on en parlera plus tard. Mais déjà, voilà, trouver les bons biens et puis ensuite faire toute la partie structuration de l'opportunité d'investissement au sens juridique et financier. Et on a aussi la compétence de garder les actifs en détention et d'en assurer la gestion. C'est d'ailleurs au cœur de notre modèle. Pour le préciser d'emblée, nous, on n'est pas un acteur du crowdfunding dans le sens où on ne travaille pas avec des porteurs de projets tierces. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tous les projets qui sont financés par Stryl sont gardés en détention par Stryl, justement parce qu'on a cette capacité de gérer tous les métiers aujourd'hui.
Ouais, super intéressant. J'ai tout de suite une question, tu me devances un petit peu, que j'allais te poser. La différence entre ce que tu vas appeler l'immobilier fractionné de ce que vous proposez par rapport justement à du crowdfunding d'un point de vue investisseur, aller extérieur on peut voir, bon allez, on apporte quelque chose, on a une obligation derrière et on a un rendement associé. Le crowdfunding, on connaît, des plateformes connues, reconnues. J'avais fait une émission avec Quentin Romé de Omunity. C'est quoi la différence et la subtilité?
Écoute, si tu veux, la différence principale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'immobilier fractionné, on est vraiment dans l'immobilier locatif. On est dans l'immobilier ancien et la source... Le revenu avec lequel on va intéresser nos investisseurs est directement lié au rendement locatif de l'actif. Alors que, comme tu le sais, et comme les auditeurs aussi doivent le savoir, avec le crowdfunding, on a plutôt un remboursement in fine, c'est-à-dire qu'une fois que l'argent a été investi, il est immobilisé pendant 12 à 36 mois, et on est remboursé avec intérêt quand le programme a été vendu, quand la rénovation a été terminée. Nous, vraiment, pendant toute la durée de l'opération, qui va durer 7 à 10 ans chez Stryl, on reverse aux investisseurs leur part du rendement locatif, au prorata du montant qui a été investi, et on les intéresse bien sûr avec la plus-value potentielle à la revente du bien.
Ok, d'accord. Ouais. Donc là, on est sur autre chose. Dans un cas, c'est vraiment du financement participatif pour mener à bien une opération pour un tiers. Et que là, on est directement avec votre solution exposé au bien sur lequel, sur lequel on se positionne pour investir.
Ouais. C'est ça, on va retrouver la similarité avec le crowdfunding traditionnel, l'idée du financement obligataire, parce que c'est comme ça que fonctionne la quasi-totalité des plateformes aujourd'hui. Tu citais Omunity, c'est un très bon exemple. Mais en revanche, ouais, la nature des opérations et du revenu distribué sont les différences essentielles aujourd'hui. Nous, on est bien dans l'immobilier locatif. Chez Stryl, on sélectionne des actifs prime qui ont été rénovés, qui sont déjà exploités, ce qui va nous permettre de distribuer des revenus rapidement à nos investisseurs. Et aussi, bien sûr, de retrouver cet intéressement, la plus-value potentielle à la revente, puisqu'on ne garde pas de commission au moment de la cession du bien.
Ok, super. Ouais, on reviendra un petit peu plus en détail là, sur le mécanisme, sur le fonctionnement. Très intéressant. Ouais. Tu parles d'immobilier commercial. Aujourd'hui, c'est les biens que vous visez sur la couronne parisienne ou même Paris directement à Tramuros. Avant de détailler un petit peu là, le projet sur lequel vous êtes en cours en ce moment, qui est assez intéressant, qui va parler à beaucoup de nos auditeurs, je pense. J'aimerais avoir ton point de vue sur le marché de l'immobilier d'une façon générale en France, peut-être plus particulièrement à Paris. Dernièrement, j'ai fait quelques émissions sur ce sujet de l'immobilier. Je demandais à mes invités, traverse-t-on une crise en ce moment? Je ne vais pas te poser cette question sous ce forme-là, parce que je me suis interdit maintenant d'employer ce terme que les journaux aiment bien employer à tout va pour faire du buzz, vendre du papier, etc.
Ouais,
mais quel est ton sentiment sur ce marché qui quand même traverse une période un peu mouvementée, je vais le dire comme ça.
Ouais, c'est sûr, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que de pas forcément employer le mot crise, mais on a vraiment une correction qui a lieu après un cycle là, sur les dernières années où il y a eu un nombre de transactions quand même très élevé, avec des conditions bancaires pour emprunter qui ont beaucoup facilité la chose. Là, on peut voir bien sûr que l'octroi de crédit s'est considérablement restreint. Il a diminué de 50% par rapport à l'année dernière. C'était les derniers chiffres que j'ai pu voir récemment. Et donc, forcément, si on regarde aussi à l'échelle de Paris, on voit que dans beaucoup d'arrondissements, les prix au mètre carré sont passés sous la barre des 10 000 euros, qui est une barre assez symbolique. Et ce que ça inspire, c'est voilà, de considérer l'investissement plutôt dans des actifs rares, dans des actifs bien spécifiques, où on sait que la variation, la sensibilité à la variation des prix va être moindre, et ce qui va permettre d'offrir un petit peu plus de garantie aux investisseurs sur ces opérations.
Pour toi, il n'y a pas de cataclysme dès lors qu'on sait se positionner sur des biens particuliers, intéressants, avec d'une part la typologie du bien, la nature du bien lui-même, et deuxièmement peut-être l'emplacement aussi.
C'est sûr, aujourd'hui, si on est dans le cadre de l'immobilier résidentiel, on voit que dans certains arrondissements, il est prévu que les prix continuent à baisser en 2024, que la baisse puisse être même jusqu'à 3-4% selon certaines estimations. En revanche, on voit aussi que dès qu'on est dans des arrondissements centraux, dans des localisations très prisées, avec des actifs rares qui peuvent avoir la commercialité, là, en général, on voit que les prix devraient quand même se stabiliser. Et donc, c'est des signaux, nous, auxquels on a été très attentifs dans le sourcing des opérations qu'on a proposées. Mais c'est vrai quand même que le contexte, je trouve, très globalement, invite beaucoup les épargnants et les investisseurs à trouver des solutions d'investissement alternatives en immobilier. Parce que ce soit du côté de l'investissement locatif, on l'a dit, les conditions d'octroi, de financement bancaire sont beaucoup plus complexes. Il y a la moitié des dossiers qui sont rejetés à cause du financement bancaire. Et puis aussi, si on reste dans l'autre grand pôle de l'immobilier locatif, qui sont les SCPI, on voit aussi que là, il y a une correction qui est peut-être moins problématique, dans le sens où c'est un investissement qui s'envisage sur le long terme, mais quand même une correction sur le prix départ, qui est un signal pour les investisseurs de trouver d'autres solutions aujourd'hui.
Ouais, exactement. Ouais. J'ai réalisé une émission passionnante sur les SCPI avec Paul Bourdois, fondateur de France SCPI, sur le sujet, qui expliquait en effet, oui, c'était un placement vu sur le long terme, etc., qu'en effet, il y avait une incidence sur la variation du prix de la part, mais que ça s'envisageait d'une autre manière. Mais oui, tout ça laisse à penser quand même aux investisseurs à quand même réfléchir un peu plus en amont. Là où il met les pieds avant de se lancer, d'être un peu plus éclairé et encore une fois, là, à mon sens, hein, et je pense que tu diras la même chose sans même peut-être devoir donner des conseils d'investissement, mais la nécessité de d'une part investir ce dans quoi on croit, ce dans quoi on connaît,
ouais.
Et le tout en étant potentiellement peut-être aussi diversifié.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Non, c'est sûr, on est clairement dans une année où le nombre de transactions va baisser. Là, on attend, je crois, 900 000 transactions cette année contre 1 200 000 en 2021, qui était peut-être le point haut du cycle. Donc, bien sûr, ça doit inviter à considérer vraiment des actifs avec voilà, en tout cas, un sous-jacent très solide, des fondamentaux très solides, pas ou très peu de défauts, et surtout des éléments distinctifs qui vont permettre de se protéger contre une certaine variation des prix.
Vous, votre cœur de métier, proposez donc l'investissement fractionné. Vous ciblez Paris intramuros, des locaux commerciaux, mais à usage d'habitation. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus?
Ouais, bien sûr, je peux le préciser. En effet, nous, notre thèse d'investissement à Paris, c'est principalement de se concentrer sur l'immobilier commercial. Il y a deux raisons à cela. D'abord, c'est le cœur de métier de mes associés qui gèrent une foncière privée qui a effectué 95% de ses deals dans le quartier central d'affaires, donc vraiment dans les arrondissements centraux de Paris. Et aussi parce que pour reparler des spécificités de ce marché immobilier, c'est vrai que c'est une valeur patrimoniale sûre, mais pour de la rentabilité dans le résidentiel classique, on sait qu'il y a d'autres villes qui sont plus attractives aujourd'hui que la ville de Paris. Nous, on a comme objectif à Xreal de reverser net de nos frais acquisition, gestion, toujours plus de 6% à nos investisseurs.
Okay.
Et c'est donc des critères qui nous amènent donc à la fois par conviction et par compétence à se tourner vers l'immobilier commercial. Et pour revenir aussi sur la suite de la question, donc sur le premier bien, l'opération en cours chez Xreal, c'est un appartement, mais qui a la destination d'hébergement hôtelier. C'est-à-dire qu'avant, c'était des espaces de bureaux. Le changement de destination a été validé par la mairie. Il a également été validé par la copropriété. Donc, c'est un appartement sur lequel on a toutes les autorisations nécessaires pour qu'il soit exploité à l'année en location courte durée,
okay,
sur des plateformes comme Airbnb. Et c'est là qu'on a un potentiel de rendement qui est vraiment intéressant parce qu'on peut booster le prix à la nuitée, le taux d'occupation de l'appartement et avoir des revenus plus significatifs que dans le résidentiel classique.
Oui, tout à fait. Ouais. Pour ma part, j'ai une appétence pour l'immobilier également et pour notamment la location courte durée. J'exerce actuellement simplement à Poitiers. Et justement, à Paris, comment ça se passe pour justement obtenir ces autorisations parce que pour pouvoir exploiter un bien de façon en courte durée, etc., il faut faire la demande à la mairie, obtenir un CERFA.
Ouais.
Et à Paris, en plus, c'est particulier. Il y a même des taxes à s'acquitter, ou, etc., etc. Comment ils délivrent les autorisations sur le cas de la ville de Paris en particulier?
Oui, bien sûr, c'est un point vraiment essentiel. Il y a deux cas de figure aujourd'hui quand on a un appartement et qu'on souhaite l'exploiter en location courte durée. Soit en fait, c'est un appartement qui a déjà la commercialité, ce qui est le cas aujourd'hui pour l'appartement qu'on propose dans le Marais, rue du Temple. Dans ce cas-là, soit en fait, on a déjà la destination d'hébergement hôtelier et on peut exploiter, opérer l'appartement. Soit on va avoir par exemple une destination d'activité de bureau. Et dans ce cas-là, il faut en fait avoir une autorisation de la mairie pour un changement de destination. Donc c'est une autorisation qui peut être donnée ou qui peut être tacite au bout d'un certain nombre d'années. Nous, c'est une autorisation qu'on a obtenue, donc qui nous valide la possibilité vraiment d'avoir cette destination d'hébergement hôtelier. Et qui donne toutes les garanties nécessaires pour avoir cette exploitation à l'année. Je précise aussi parce que parfois on a des questions, est-ce que c'est un appartement qui ne peut techniquement être exploité que 90 jours par an ou un certain nombre de jours dans l'année? Non, aujourd'hui c'est vraiment un appartement qui a vocation à être 100% du temps sur tous les jours de l'année sur des plateformes de location courte durée.
C'est un point important. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, il y a quand même pas mal de personnes, alors peut-être pas beaucoup là, sur l'audience qui nous écoutent, mais qui font encore la confusion par rapport à ces 90 jours qui sont cette limite de 90 jours d'exploitation qui est dédiée aux personnes exploitant pour le compte de leur résidence principale.
Non, exactement. Et quelque chose qui a joué vraiment dans notre volonté de sélectionner cet appartement, c'est qu'aujourd'hui à Paris, il y a des règles très strictes. C'est-à-dire que si jamais on voulait créer un hébergement hôtelier à partir d'un appartement résidentiel classique, il y a une règle qui imposerait en fait de recréer le logement qui a été détruit. Parce que c'est un marché où il y a une tension locative très forte avec beaucoup de demandes de logement, une demande qui excède très très largement l'offre. Et donc nécessairement en fait ces projets-là aujourd'hui sont quasiment systématiquement refusés par la mairie de Paris. Et donc nous on profite d'avoir déjà les autorisations nécessaires pour proposer ce bien, et c'est aussi ce qui explique que ce bien a une rareté qui va se refléter dans le prix et qui va permettre une appréciation sur toute la durée de l'opération qu'on propose à nos investisseurs.
Ouais, en effet, très intéressant. Juste je rebondis sur ce point-là que tu donnes, et puis après on va rentrer un petit peu dans la description de ce bien qui est magnifique.
Ouais. Merci.
Donc à Paris, celles et ceux qui souhaiteraient avoir une autorisation pour exploiter en courte durée devraient mettre en face un nouveau logement en location classique à l'image un petit peu de, en fonction de chaque PLU, les personnes qui souhaitent créer de nouveaux logements ou diviser une maison doivent mettre en face des stationnements par exemple, etc., etc., respecter quelques règles. Là, ça serait de mettre en face un nouveau logement.
Tout à fait. En fait, il y a des règles très strictes sur la protection du parc de logements résidentiels à Paris.
Oui, oui.
Pour les raisons qu'on expliquait. Et je pense que ces règles font sens dans le sens où, à horizon 2050, il y aura 1 million d'habitants supplémentaires à Paris en Ile-de-France. Donc, on comprend que la tension locative va continuer à être très forte. Et il y aurait quand même des incitations, du coup, pour tous les porteurs de projets immobiliers, de plutôt transformer certains espaces avec de l'hébergement hôtelier, ou en tout cas aller chercher cette commercialité, mais ça viendrait accentuer les problèmes liés aux difficultés de se loger à Paris actuellement. Donc c'est des règles qui ont été mises en place pour protéger ce parc de logement et qui du coup aussi donnent une vraie rareté aux biens qui ont déjà toutes les autorisations, parce que les autorisations aujourd'hui sont simplement plus accordées.
On entend bien tout de suite la création de valeur, ne serait-ce que par la possibilité d'exploiter sur ce type de location. Paris, le Marais, on peut donner l'adresse, la 177 rue du Temple,
ouais.
Notamment.
Du coup, c'est bien le troisième arrondissement. Et on se situe du coup juste à côté, juste à côté d'Arrêt Métier, qui est en plus un des emplacements les plus prisés dans ce quartier-là. Et donc, ouais, c'est un bien qui fait 57 mètres carrés, qui a la capacité d'accueillir 6 personnes, donc 6 couchages. On l'a aussi choisi parce que le voyage de groupe est un des segments les plus dynamiques sur Airbnb. Et donc, ouais, c'est un appartement qui a été rénové en 2022 et qui est franchement superbe. On était beaucoup à avoir voulu investir en perso, et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi et qu'on le propose à nos investisseurs, parce que c'est un projet, un bien dans lequel on croit beaucoup. Il est situé au troisième étage. Il est à côté de tous les grands hubs de transport, que ce soit pour accéder aux sites touristiques ou ici en 2024 aux sites olympiques. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce bien-là, c'est qu'il y a une année olympique qui arrive avec des prix à la nuitée qui vont être vraiment intéressants. Donc tout était réuni sur ce bien-là pour qu'on puisse le proposer sur notre plateforme aux investisseurs. Pour donner quelques autres chiffres aussi qui nous ont intéressés sur le marché Airbnb à Paris, c'est que sur les 5 dernières années, les prix à la nuitée ont augmenté de 61%. Les taux d'occupation étaient vraiment élevés, les taux d'occupation moyens étaient de 89%, donc ça veut dire qu'il est loué sur 89% du temps d'une année. Nous, dans notre prévisionnel d'activité, on est parti sur des hypothèses plus conservatrices. On a gardé 85%, ce qui a servi pour construire l'estimation de revenus pour nos investisseurs. Mais en tout cas, voilà, on avait beaucoup de gages et de métriques qui nous permettaient de dire que l'opportunité d'investissement avait un bon potentiel de rendement.
Ok, d'accord. Ouais, donc 55 mètres carrés, tu m'as dit?
57, ouais.
57 de mètres carrés, il ne faut pas les oublier. Hein, à Paris, ça fait la différence.
Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, vraiment, c'est important.
57 mètres carrés, 6 couchages. En effet, c'est magnifique. Hein, celles et ceux qui peuvent aller sur le site.
Ouais, n'hésitez pas à aller sur le site et sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez voir les photos de l'appartement. Il est aussi déjà, en fait, comme je disais, exploité sur Airbnb aujourd'hui. À la suite de sa rénovation, donc il y a même une annonce qui est disponible. On peut voir qu'il a des super notes. Il a une note globale là, de 4,6 sur 5, 4,9 pour l'emplacement parce que vraiment il est très bien situé dans Paris, 4,7 pour le soin, la propreté, la qualité du service. Et en plus, je peux ajouter qu'il est confié en gestion à un expert, à une société qui s'appelle Check My Guest, qui est notre partenaire sur cette opération. On est vraiment ravis de travailler avec eux.
Ok.
Check My Guest, ils ont déjà 2000 actifs en gestion, que ce soit à Paris, mais aussi dans certaines villes de la côte atlantique et méditerranéenne.
Ok.
Et ils ont vraiment la capacité de gérer à la fois les réservations. En fait, ils ont un outil de pricing journalier dynamique qui va permettre d'avoir les prix les plus attractifs possibles en termes de rendement pour les investisseurs, et aussi de permettre des réservations d'une seule nuit ou des réservations jusqu'à minuit le jour même, de quoi vraiment booster le taux d'occupation. Donc ils ont cette expertise sur la partie réservation et en plus également sur toute la partie bien sûr gestion du bien, des potentiels travaux de design d'intérieur. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi ce partenaire-là.
Ok, ouais, super intéressant. Donc Check My Guest, en gros c'est une conciergerie digitale 2.0, votre partenaire qui vous accompagne. Et en effet, tu le soulignes, Et ouais. Pour l'expérimenter moi-même à titre personnel, c'est ce qui fait toute la différence justement, indépendamment de la gestion du bien, que ce soit accueillant, que ce soit d'un état de propreté irréprochable, au goût du jour, les petits travaux de réparation, la déco, etc. Mais la gestion, on va dire, du planning, de l'accueil, de pouvoir moduler en fonction une nuit, deux nuits, plusieurs nuits, etc. De pouvoir modifier les tarifs, faire ce qu'on appelle du yield management.
Ouais, exactement.
Ça fait la différence in fine sur le chiffre d'affaires global avec des petites variables de savoir s'adapter. Ça fait vraiment de grandes différences in fine, ouais.
Ouais, non, c'était vraiment important pour nous d'avoir un partenaire qui ait vraiment cette compétence bien spécifique et tous les outils pour le faire au service de nos investisseurs. Et c'est aussi un partenaire qui nous permettra à terme de nous étendre à d'autres géographies, puisque ils sourcent aussi beaucoup d'opportunités d'investissement dans ce type de biens, des appartements qu'on a à destination d'hébergement hôtelier. Et c'est même un acteur, on en parlait, c'est un sujet lié, mais qui se spécialise dans la transformation d'espaces de bureaux. On sait qu'il y a beaucoup de bureaux qui sont aujourd'hui vacants, principalement ici à Paris, en Île-de-France. C'est une classe d'actifs qui connaît des changements vraiment profonds. Et donc Check My Guest a la capacité aussi de changer ses usages et de les exploiter en location courte durée. Et donc voilà, c'est un acteur de référence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est très content de bosser avec eux.
Ouais, cool. À l'heure actuelle, ils travaillent en province aussi. Enfin, ils travaillent un petit peu partout. Tu parles de à peu près 2000 biens sous gestion.
Ils travaillent beaucoup à Paris en première couronne. Et ils se sont aussi ouverts à des villes, par exemple, comme Saint-Tropez.
Okay.
Toutes les villes aussi sur la côte méditerranéenne, sur la côte atlantique également. Donc des villes où parfois les régulations peuvent être un petit peu moins strictes qu'à Paris et qui permettent du coup aussi là encore d'exploiter des biens à l'année avec des rendements vraiment intéressants pour les investisseurs.
Je prends ces quelques secondes pour te remercier d'être fidèle au rendez-vous du podcast de la Bonne Fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le partager et ça me fait chaud au cœur. Le podcast de la Bonne Fortune, c'est une émission gratuite et disponible pour le plus grand nombre. Du coup, je te remercie de bien vouloir prendre quelques instants précieux afin de mettre une évaluation sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ça fait plaisir aux algorithmes et ça me permet de continuer à recevoir des invités inédits et exclusifs. Et si tout comme Vanessa, Sylvain, Charlotte et d'autres, tu souhaites aller plus loin et être entouré d'investisseurs au mindset ambitieux et bienveillant, tu peux, en fonction des places disponibles, nous rejoindre dans la communauté privée de la Bonne Fortune. Maintenant, place à la suite de cette émission. Pour en revenir sur ce bien, tu parles de, en effet, de la demande assez forte pour les voyages et donc l'hébergement de groupes. Tu parles de 6 personnes.
Ouais.
Tu vois, moi-même, je suis allé à Paris. On est allé à 6 à l'occasion de la Coupe du Monde pour aller voir un match. Et justement, ben, comme tout le monde, on regarde un petit peu et puis on sélectionne un logement qui nous correspond, etc., etc. C'est dommage que j'avais pas eu connaissance du logement, je l'ai pas vu passer avant parce que c'est vrai que c'est sympa. J'y serais bien allé faire un petit tour, ça a l'air d'être vraiment assez confortable. Quel est à peu près le prix moyen d'une nuit pour aller 4, 5, 6 personnes sur ce logement
aujourd'hui? Donc le prix net propriétaire, c'est-à-dire le prix si on enlève la commission que prend Airbnb pour les réservations, il est entre 350 et 360 euros. Donc ça, c'est hors, bien sûr, événements particuliers comme les Jeux Olympiques.
Ouais, ouais, ouais.
Là, on s'attend pendant la période olympique, est-ce que les prix à la nuitée à Paris pour ce type de bien aille jusqu'à au moins 1500 euros la nuit. On avait vu qu'il y avait des logements aussi qui se vendaient même à 2000 euros la nuit au moment de la finale de Champions League il y a quelques années lorsqu'elle avait eu lieu en France. Et donc, en tout cas, ouais, là-dessus, nous, on est parti sur cette hypothèse-là, qui est l'hypothèse actuelle, de 350-360 euros. Et aussi, on provisionne dans le montant qui est investi, qui est collecté auprès de nos investisseurs, 10 000 euros avec Check My Guest pour en fait avoir un nouveau mobilier. On a expliqué tout à l'heure que l'appartement avait été rénové, mais on pourrait apporter quelques modifications de design d'intérieur qui permettraient d'augmenter le prix à la nuitée. Nous, en fait, pour te donner des exemples très concrets, ce qui nous intéresse, c'est qu'on pourrait passer à un prix net propriétaire qui serait supérieur à 400 euros. Quand on regarde des appartements comparables que Check My Guest a en gestion dans le quartier, notamment dans la rue Béranger,
ouais.
Ils ont vraiment donc des appartements qui ont la même typologie, des appartements de 60 mètres carrés, 6 couchages, avec le même nombre de salles de bain, de chambres, et qui sont des propriétaires à des prix de 420, même parfois 440 euros la nuit. Donc on profite aussi de l'expérience de Check My Guest pour réaliser ces améliorations-là et donc augmenter le revenu qui sera reversé à nos investisseurs.
Ouais, ok, je comprends bien en regardant les photos. Donc c'est un bel appartement lumineux, une belle hauteur, une petite hauteur sous plafond. Là, je vois la grande vitre dans le fond,
ouais.
Un beau parquet sur chevron
ouais.
Au sol. Et après, oui, un mobilier, somme toute, très, très agréable, mais peut-être assez classique. Et vous voulez monter en gamme encore plus.
Ouais, exactement. On peut voir sur le site de Check My Guest qu'ils ont cette faculté à faire des appartements vraiment très, très design. Et donc, ça permet de capitaliser sur les atouts de l'appartement. Qui sont très lumineux en fait, donc il n'y a pas de vis-à-vis direct. On a un parc en fait en face de l'appartement qui est rue du Temple, comme je disais, dans le Marais, et avec une grande pièce à vivre où on a à la fois donc l'espace pour la salle à manger, le salon, on peut partager les repas, tous les moments de convivialité qui font aussi le charme de la location courte durée en groupe pour des groupes de 6 personnes. C'est vraiment une catégorie, je pense, d'hébergement pour laquelle la location courte durée offre une expérience vraiment distinctive de l'hôtel. On est plutôt habitué à un schéma où on va être jusqu'à 2 par chambre et pas vraiment d'espace pour se regrouper. Donc là-dessus, ouais, on a vraiment des bons atouts pour faire de cet appartement un super lieu de vie. Et ça explique qu'il y a des très bonnes notes hein, déjà, et que les voyageurs l'apprécient beaucoup.
Ouais. Pour l'investisseur, du coup, ouais. Donc, qui a compris en effet qu'il y a un intérêt, qu'il y a des fondamentaux solides sur le bien, sur le, la typologie du bien, sur l'emplacement, sur le mode d'exploitation, qu'il y a une réelle demande en face. Avec Stril, tu parles d'immobilier fractionné, donc qui est différent, on a compris maintenant, du crowdfunding. Comment ça se passe? Pourquoi l'immobilier fractionné? Et comment ça se passe sur le parcours utilisateur, investisseur classique?
Oui, bien sûr. Alors écoute, c'est très simple, l'immobilier fractionné, parce qu'en fait, on permet aux particuliers de co-investir dans ce bien. Le ticket d'entrée aujourd'hui chez Stril, il est à 100 euros. Donc en fait, à partir de 100 euros, on peut investir, on peut financer l'acquisition de cet actif et du coup être intéressé avec sa part du rendement locatif et sa part de la plus-value potentielle à la revente. Concrètement, quand on est investisseur chez Stril, on n'a pas de titre de propriété, mais on a un titre financier, qui est une obligation, qui va recréer les avantages économiques de la propriété. Ce qu'on inscrit en fait dans notre contrat, c'est vraiment que le rendement qui va être proposé aux investisseurs est un rendement miroir au rendement locatif de l'actif. Et donc on a donc ces revenus qui sont générés pour nous, c'est vraiment un investissement avec une gestion passive, puisque là en l'occurrence donc c'est Stril avec Check My Guest qui s'occupe de toute la gestion de l'appartement, la gestion de l'investissement. Et c'est vraiment la vertu de ce modèle qui va permettre à différents types d'investisseurs de venir accéder à ce type d'actif qui est très rare. Là, c'était un bien remarché, donc en fait, il n'a même pas eu le temps d'être listé sur des sites bien connus pour trouver preneur. C'est lié à la rareté du bien. Donc là, vraiment, on va avoir des investisseurs qui, aujourd'hui, peut-être ne seraient pas en mesure d'obtenir le financement bancaire adéquat ou qui, au contraire, sont des investisseurs beaucoup plus aguerris, qui ont déjà réalisé beaucoup de projets, qui ont atteint leur capacité d'endettement maximum et qui cherchent un produit d'investissement immobilier avec un bon niveau de rendement. Nous, on cible de distribuer plus de 6% uniquement avec le rendement locatif et sans intégrer la plus-value dans ce calcul-là. Donc, on comprend que ce soit vraiment attractif, là où la SCPI, par exemple, sera plutôt autour de 4,5%.
Ok, d'accord, ouais, super intéressant, bien clair. Cette volonté de répliquer le rendement vraiment lié à l'appartement, pourquoi ce choix de se tourner sur de l'obligation plutôt que de la prise de participation dans une société qui détiendrait le bien, par exemple? C'est plus simple à mettre en œuvre? C'est une question plutôt curiosité, hein, pour ma part.
C'est des questions qu'on a pu se poser au tout départ de l'aventure. Et en fait, il y avait divers obstacles juridiques importants si on ne passait pas par le modèle classique de l'obligation. D'abord, en fait, le produit aurait été beaucoup moins liquide, beaucoup moins flexible, parce qu'en fait, si on est sur de l'action, de la prise de participation, il va y avoir des droits de mutation. Donc, en fait, on a des frais au moment où on veut céder ses titres. Et juridiquement, c'est aussi beaucoup plus complexe de gérer la relation avec tous les investisseurs. Nous, aujourd'hui, chez Stril, on a donc des obligataires qui sont représentés par un représentant de la masse, une société qui s'appelle Aether Financial Services, une société vraiment indépendante, et qui consulte les investisseurs pour toutes les décisions importantes avec un système de vote à la majorité. Donc comme ça, la relation avec les investisseurs est quand même vraiment, vraiment simplifiée et on garde les avantages de l'obligation qui sont la flexibilité dans le montant investi et aussi la possibilité de liquidité et de cession des titres.
Ok, d'accord, ouais, très très clair. La flexibilité, une relation simplifiée, moins de lourdeur, on va dire, administrative sur les AG, sur...
Ouais, c'est vraiment le cœur du dispositif aujourd'hui. En fait, les obligations, concrètement, c'est un titre de créance, c'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît que l'investisseur prête de l'argent à la société pour réaliser l'acquisition de l'actif.
Ouais.
Donc, il se substitue, c'est un substitut à une banque, hein, concrètement, ou à d'autres acteurs qui sont susceptibles d'apporter du financement. Et c'est en échange de cet argent qui est apporté pour l'acquisition de l'actif que l'investisseur est rémunéré. Donc c'est un prêt rémunéré et la rémunération est donc de percevoir sa part du rendement locatif au prorata du montant investi et aussi de la plus-value potentielle qui est réalisée à la cession du bien.
Ok, d'accord. Avec en plus, en cas de défaut, allez, cataclysme, il n'y a plus rien qui se loue, il y a une tempête, une météorite qui tombe sur l'appartement, un problème d'assurance, vous n'êtes pas remboursé, il n'y a plus de rentrée, etc., etc. Les obligataires sont privilégiés par rapport aux actionnaires en cas de remboursement forcé.
Oui, alors c'est ça. Nous, ce qu'on a mis en place pour les obligataires, c'est une hypothèque de premier rang.
Ouais.
Donc en fait, c'est un cas dans lequel la société maîtrise, donc en l'occurrence Stril, aura un cas de défaut et qu'on devrait procéder à un amortissement sur l'appartement. Dans ce cas-là, avec l'hypothèque de premier rang, les investisseurs, les obligataires de Stril sont les premiers remboursés. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas travaillé avec un financement bancaire et qu'on n'a pas mis de banque sur l'opération. Et donc, ouais, c'est partie des garanties les plus élevées qu'on peut proposer aujourd'hui aux investisseurs.
Ouais. Je rentre un petit peu hein, dans le détail volontairement parce que bon, on a le temps hein, sur le podcast pour aller en profondeur et puis pour voir un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que encore une fois, l'investissement, il y a rien qui est garanti. Un titre obligataire, on peut perdre. Part de son capital, etc., etc., le disclaimer.
Ouais.
Mais il y a quand même des sécurités, en tout cas des niveaux de garantie qui sont différentes à chaque étape, et c'est bien, encore une fois, de le savoir,
ouais.
Voilà, de connaître un petit peu plus.
Oui, c'est clair, mais comme tu l'as dit, pour être aussi transparent sur les risques, d'ailleurs, ils sont tous mentionnés dans ce qu'on appelle un document d'information synthétique. Il est obligatoire de publier quand on fait une offre comme la nôtre. Donc, on la dépose auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, dedans, on reprend vraiment tous les risques. Et les risques principaux, comme tu le disais, c'est toujours le risque de perte en capital ou le risque d'illiquidité. Et nous, en fait, là-dessus, notre approche, ça a été aussi de sélectionner un bien rare pour se protéger vraiment de tous les risques qui peuvent être liés à ce type d'investissement. Pour le coup, on va avoir un risque qui est similaire à l'investissement locatif à titre perso, c'est-à-dire que si aujourd'hui on avait de la vacance locative, c'est-à-dire que l'appartement n'était pas occupé, il n'y a pas d'obligation de la part de Thrill de reverser un certain rendement. C'est des obligations à taux variable et pas à taux fixe.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai que le rendement qui est reversé aux investisseurs dépend directement du niveau d'activité, donc du taux d'occupation d'un côté et du prix à la nuitée de l'autre.
Oui, bien sûr.
Et après, donc voilà, donc ça c'est un peu une garantie quand même, nous, ce qu'on a pris sur une garantie sur l'activité, c'est d'avoir toutes les autorisations administratives et légales pour exploiter à l'année en location courte durée. Et aussi, donc, un marché sur lequel qui a été très dynamique à Paris, comme j'expliquais précédemment. Et après, on a pris aussi toutes les garanties possibles sur la valeur intrinsèque du bien, sur sa valorisation.
Mmh.
On a vu un peu que vraiment dans les arrondissements, notamment le 3e arrondissement, les actifs qui avaient même cette année très peu perdu de valeur, c'était ce genre d'actifs rares. Qui avait un vrai patrimoine historique, architectural, et qui était à même d'offrir ces garanties solides aux investisseurs.
Très très clair. Vous êtes du coup et régulé et agréé par l'AMF.
Pour être précis, il n'y a pas d'agrément spécifique aujourd'hui sur la société Thrill, parce que comme je le disais, on n'a pas cherché à avoir l'agrément PSFP, qui est l'agrément du financement participatif et des crowdfunders immobiliers.
Mmh.
Nous, comme je le disais, dans notre modèle, et ça, on a une validation écrite de l'AMF qui a conditionné l'obtention de notre statut d'agent financier auprès de la Banque de France. Donc ça, c'est quand même un statut, une étape importante qu'on a pu réaliser. Donc on a vraiment la confirmation qu'on émet des obligations dans le cadre de l'offre au public de titres financiers.
Oui.
Ce qui n'appelle pas d'agrément au départ de l'activité. C'est simplement quand on veut collecter plus d'un million d'euros que là, on doit faire viser un prospectus par l'AMF. Donc, pour être très précis, pour l'instant, on est simplement dans l'obligation de publier un document d'information synthétique dans lequel on détaille qu'on répond à toutes les exigences de l'AMF pour l'émission des obligations et qu'on est aussi, qu'on remplit notre devoir d'information des investisseurs sur les modalités de l'investissement et sur les risques associés principalement.
Ouais, très très clair. Merci Louis pour cette petite digression et ces explications entre. Allez, si on peut synthétiser, la régulation via l'AMF, ce dans lequel vous êtes, plutôt que l'agrémentation, ce que vous ne nécessitez pas, notamment par rapport à ce seuil des 8 millions, etc. etc.
Ouais.
Super intéressant. Pour en revenir sur l'investisseur, donc on a compris l'immobilier fractionné avec ce véhicule d'investissement qui est le titre obligataire, donc très 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 clair. La personne investit à partir de 100 euros, 1000, 2000. C'est un bien qui est commercialisé à quel montant ?
Alors, le prix du bien est à 1 090 000 euros. Et le prix, en fait, après, ce qu'on ajoute dans le montant collecté, là aussi, c'est transparent dans toute notre documentation et sur le site.
Ouais.
Et, d'abord, il y a des frais de notaire. Il n'y a pas de frais d'agence, comme j'expliquais, il est hors marché. On a quand même des frais de notaire. On a aussi une provision pour les travaux que je mentionnais pour le design d'intérieur.
Mmh.
Donc, ils ne sont pas des travaux conséquents parce que l'appartement a été rénové en 2022.
Mmh.
J'ajoute aussi que les parties communes ont été rénovées, qu'il n'y a pas de gros projets de travaux dans l'immeuble. Donc, on a bien sûr scruté tous les PV d'AG pour s'en assurer. Et ensuite, donc, il y a la rémunération de Thrill, qui est une rémunération, une commission d'acquisition à hauteur de 10%.
Mmh.
10% sur le total de la somme que j'ai détaillée.
Et donc la personne qui investit donc de 100 à 1 million d'euros s'il veut se faire plaisir, soyons fous, s'engage avec ce titre obligataire. Est-ce qu'il y a une durée de détention? Tu parlais de liquidité, c'est important aussi
ouais.
Pour quand on investit dans quelque chose, de savoir à quel horizon, comment on peut ressortir, etc. etc.
Ouais.
Tu peux développer un petit peu?
Là-dessus, pour être très clair sur ce point de la liquidité, je veux vraiment être très clair là-dessus parce que c'est une des demandes très explicites de l'AMF sur les sujets. En fait, aujourd'hui, avec Stripe, ce qu'on organise, c'est la possibilité d'une liquidité, mais pas de garantie de liquidité. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est tout à fait possible, c'est inscrit dans les termes et conditions de nos obligations, de céder ces obligations, mais ça suppose d'avoir trouvé un repreneur. Nous, on peut bien sûr être amené à faire tout notre possible pour répondre à des besoins en liquidité urgent, mais il faut bien qu'en face, en fait, il y ait un repreneur pour que la liquidité ait lieu et qu'on puisse céder ces titres. C'est en ce sens-là que je précise qu'il n'y a pas aujourd'hui de garantie parce que contractuellement, la société n'est pas obligée de reprendre des titres à des investisseurs qui souhaiteraient s'en séparer. C'est pour ça que nous, on veut quand même vraiment aussi encourager l'investissement à long terme et on part sur des opérations d'une durée de 7 à 10 ans. Et la durée, en fait, même de cette opération en cours peut être flexible. Pour l'instant, on a inscrit 7 ans, mais avec la possibilité de prolonger l'opération avec l'accord des obligataires et plus spécifiquement du représentant de la masse des obligataires. La raison est assez simple, c'est qu'on veut être sûr de pouvoir maximiser aussi le potentiel de plus-value et donc de déboucler l'opération au moment le plus opportun du cycle immobilier. Et donc, on serait amené à pouvoir prolonger cette opération si on jugeait qu'il valait mieux partir sur 10 ans, par exemple. Et autre spécificité de ce modèle, c'est qu'il permet aussi, alors là, le cas est différent, mais il permet aussi de réaliser un amortissement anticipé. C'est-à-dire, je donne un exemple, hein, si jamais déjà au bout de 6 ans, on avait une offre très intéressante qui permettait d'avoir un bon potentiel de plus-value pour nos investisseurs, qu'on avait l'accord du représentant de la masse des obligataires, on serait en mesure d'écourter l'opération. En tout cas, là-dessus, on a vraiment voulu maximiser le potentiel de plus-value pour les investisseurs.
Ok, ouais, d'accord, ça s'entend très très bien. Donc, une durée cible de 7 ans, mais avec des possibilités de flexibilité pour
ouais.
Voilà, trouver le cas échéant, un point de sortie intéressant, ça se comprend très très bien.
Tout à fait.
C'est assez intéressant, parce que si dans 7 ans, tout pile, allez, disons qu'il n'y a pas de crise, hein, c'est interdit, on ne parle plus de crise ici, mais il y a vraiment une période, allez, une période Covid, quelque chose, enfin voilà, l'économie à l'arrêt, etc., etc., de ne pas s'emprisonner dedans et de pouvoir ressortir. Et comme tu le dis, s'il y a même des opportunités, une offre irrésistible qui tomberait avant, voilà, ça vous laisse la latence pour sortir avant et faire une belle opération et en faire profiter les investisseurs.
Ouais, tout à fait.
Ok, donc parce que l'investisseur, il a ce rendement cible et il a également le potentiel de participer au gain de la plus-value.
Ouais, c'est vraiment le sens qu'on encourage l'investissement à long terme. C'est de rester au bout de l'opération pour profiter de ce potentiel de plus-value, aller jusqu'à l'amortissement. Et oui, donc en tout cas, tous les rendements sur lesquels on communique n'intègrent pas, hein, déjà une estimation de la plus-value. C'est quelque chose qui a pu se faire sur d'autres plateformes, qui a été aussi, comme je le mentionnais plus tôt, fortement déconseillé par l'AMF. En gros, l'AMF a dit que c'était quasiment de la communication un peu mensongère. Et donc nous, vraiment, on est parti sur les hypothèses qu'avait Check My Guess, notre partenaire, pour les appartements qui sont en gestion dans le quartier. Et eux, comme nous, on a des pratiques de toujours partir d'hypothèses plutôt conservatrices. Comme je le disais, on est parti d'un taux d'occupation de 85% et pas de 89% et d'un prix à l'annuité qui intègre vraiment le fait qu'on peut apporter des améliorations aux dizaines d'intérieurs et appliquer plus tard une hausse des prix qui n'est vraiment pas aujourd'hui comprise dans notre business plan. Donc, là-dessus, sur toute cette base, on arrive à un rendement cible pour les investisseurs de 6,04% en moyenne par an sur les 7 premières années. Et on est vraiment confiant sur la capacité à délivrer ce rendement.
C'est intéressant, c'est un discours de vérité, peut-être un peu moins vendeur que si on pousse un peu les chiffres et tous les curseurs d'entrée de jeu pour commercialiser, mais mieux vaut partir en effet sur des hypothèses conservatrices.
Ouais,
je pense que c'est une bonne stratégie dans le sens où mieux vaut satisfaire ses investisseurs et d'avoir une bonne surprise, de cibler un 6% et de pouvoir éventuellement proposer un 7, un 8, le cas échéant, dans 5 ans, 10 ans, si les prix s'envolent de la location. C'est toujours mieux dans ce sens-là. Ouais.
Tu vois, aussi, on est vraiment dans le cadre de l'immobilier locatif. Donc, si on regarde la pierre papier, la SCPI, comme on le disait, il y a des SCP qui performent très bien. Ils sont aussi capables d'atteindre du 6%, mais sinon le taux de distribution moyen l'année dernière, il était à 4,53%. Donc en fait, on est aussi, On a aussi donc cette attractivité supplémentaire. Et moi, je suis convaincu que, et on le voit d'ailleurs dans le profil des investisseurs qui investissent chez nous, c'est que c'est souvent des personnes qui ont déjà investi en SCPI, qui sont intéressées par ces pays qui ont vraiment cette dimension d'investissement patrimonial avec un rendement stable sur des classes d'actifs sélectionnées, sécurisées. Et en même temps, nous, on va pouvoir les intéresser avec un investissement actif par actif. C'est une différence qu'on a avec la SCPI. C'est vraiment on investit dans une opération spécifique. Donc, les gens vont pouvoir investir dans un bien rare, par exemple. Donc là, cet appartement en location courte durée qui a toutes les autorisations nécessaires avec un plus haut potentiel de rendement. Et c'est vraiment comme ça aussi que l'immobilier fractionné tel que le conçoit Stril peut s'intégrer dans tous les portefeuilles, que ce soit dans le portefeuille des personnes qui vont investir quelques centaines, quelques milliers d'euros tous les mois, qui vont le voir comme un produit d'épargne très performant, et aussi des investisseurs plus aguerris qui ont déjà sélectionné des produits immobiliers dans leur portefeuille.
Tu fais le parallèle avec les SCPI. Il y a un point qui, je pense aussi, va différencier. Ça va être la fiscalité, en tout cas pour la personne physique qui investit. Pour ce qui est de la société, c'est toujours l'imposition sur les sociétés. Mais la personne physique, l'investisseur comme toi, comme moi, qui investit, est soumise à quelle fiscalité? C'est un titre obligataire? C'est de la valeur mobilière? C'est de la flat tax?
Bah exactement, en fait, l'avantage que tu as avec les obligations, c'est qu'on est bien dans un titre financier. Donc ça va pas être la fiscalité des revenus fonciers ou des revenus immobiliers classiques qui va s'appliquer. Là, vraiment, c'est la flat tax à 30%.
Ok.
Et c'est aussi un produit qui va être attractif pour à la fois les résidents français et puis les Français qui sont des résidents étrangers, dans le sens où il n'y a aucune retenue qui est réalisée à la source. Donc tous les moyens aussi sont mis en place pour que la fiscalité du produit soit assez attractive.
Ok, d'accord.
J'ajoute aussi là-dessus qu'il est possible sur Stril, tu vois, d'investir à la fois en tant que personne physique et en tant que personne morale, ce qui permet encore pour tous les spécialistes d'avoir divers après fonctionnements et schémas pour optimiser les revenus qui vont être générés par nos opérations, soit les réinvestir directement chez Stril. Voilà, c'est des possibilités qui étaient importantes pour nous et on a voulu les ménager pour nos investisseurs.
Ok, ouais, très très clair. Le revenu est distribué, je sais pas, je pense pas qu'on en ait parlé. Donc là, sur une hypothèse cible à 6%, encore une fois, ouais. Quelqu'un met 10 000 euros, aura 600 euros, l'équivalent d'un 600 euros si on garde le schéma et que tout va bien. Encore une fois, rien n'est garanti.
Ouais, bien sûr.
Donc, doit recevoir ces 600 euros, c'est une fois à l'année, c'est distribué tous les mois en même temps que le loyer, c'est distribué in fine à la fin de l'opération.
Nous, on a voulu vraiment sur cette opération faire une distribution mensuelle, c'est-à-dire que les revenus sont distribués mensuellement. Et je pense que ouais, c'était le meilleur moyen d'intéresser aussi les investisseurs qui nous font confiance sur cette opération. L'avantage de la location courte durée, c'est qu'on a des revenus conséquents qui sont générés tous les mois. Après, il faudra aussi qu'on fasse preuve de notre côté de pédagogie parce que les revenus ont une saisonnalité. Il y a bien sûr des mois où le taux d'occupation et le prix à l'annuité sont beaucoup plus élevés, notamment certains mois d'été ou les belles saisons, également aussi pour les vacances d'hiver. Il y a aussi des mois où l'activité va être beaucoup plus creuse. Donc le rendement en fait, et les revenus distribués seront inférieurs. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans notre prévision d'activité. Tous les mois ne sont pas inscrits à 85%. C'est vraiment une moyenne qui a été construite. Voilà, il y a des mois où le taux d'occupation sera peut-être plutôt autour de 70-65%. Des mois où le taux d'occupation pourrait être à 95%, voire plus.
Ouais, 100%, voire même du 110% avec les annulations qui ne sont pas dans le champ des remboursements et qui sont recomblées par d'autres, etc. etc. On peut même voir ça.
Des hypothèses rares qu'on ne peut pas modéliser par souci d'information et comme je disais, rester assez conservateur. Mais c'est sûr que c'est des scénarios techniquement possibles. Après, voilà, on est quand même resté sur un schéma classique pour les prévisions de revenus.
Bien sûr, ça s'entend, ouais. Ouais, donc intéressant, donc un revenu distribué mensuellement, donc ce qui est toujours intéressant parce qu'on peut potentiellement utiliser les fruits de ces revenus pour tout ce qu'on veut, que ce soit du loisir, des vacances, profiter de sa retraite pour ceux qui y sont, ouais. Payer les études de ses enfants, ou alors réinvestir et profiter comme ça des intérêts composés.
Ouais, exact.
Ok, très très intéressant. Je pense qu'on a fait un tour assez complet en tout cas de votre solution, du bien. J'invite vraiment les auditeurs à regarder un petit peu ce qui. Je mettrai, je pense que je prendrai, je te piquerai des photos, je les mettrai aussi en description avec le lien du site, hein, bien sûr.
Ouais.
Mais je les mettrai en description de l'émission, parce que c'est quand même assez sympa, assez charmant.
On a aussi une belle vidéo de présentation. On peut voir à la fois le quartier, l'intérieur de l'appartement lui-même. Une vidéo qui fait 1 minute 30, qui reprend tous les points forts de l'investissement. Donc, pour aussi la transmettre à tous les auditeurs.
Avec grand plaisir. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Pour ce qui est des auditeurs de La Bonne Fortune qui seraient éventuellement intéressés pour rejoindre votre aventure Stryl sur ce bien et peut-être les suivants également, est-ce qu'il serait possible de leur proposer un petit geste, un petit intéressement particulier? On voit qu'il y a un système aujourd'hui de parrainage qui est à hauteur de,
ouais, bien sûr.
Voilà, de 1% de commission, de rétro-commission. Je sais pas, tu vas pouvoir l'expliquer un peu mieux. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose d'un peu plus sympathique encore?
Bien sûr, ouais. Donc en temps normal, on a un fonctionnement de la plateforme qui permet d'avoir un bonus, en fait, un cashback, donc c'est-à-dire une partie de l'investissement qui est remboursée au moment où le projet est clôturé, c'est-à-dire quand la collecte est finalisée. Le paramétrage de base était de faire en fait un cashback de 1%. Et nous, là-dessus, donc, on va proposer à tous les auditeurs une offre de bienvenue. En fait, là, pour l'instant, le cashback sera de 3% et même jusqu'à 4%. Donc, c'est un avantage qui est progressif selon le montant investi. Et donc, on est ravis de le proposer aux investisseurs pour cette opération parce que c'est un projet dans lequel on croit vraiment beaucoup.
Ok, donc, ouais, super intéressant. Donc,
à toute l'audience et ensuite, voilà, il y aura un lien d'inscription très simple où il n'y aura pas de code à renseigner. Il s'agira simplement de venir s'inscrire en utilisant ce lien et l'avantage sera directement affiché.
Ok, d'accord, très 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 intéressant. Donc un cashback de 3 jusqu'à 4% en fonction en lieu et place des 1% prévu initialement.
Ouais, 3% c'est 100 millions d'investissement et 4% c'est pour les investisseurs qui mettent des tickets plus conséquents à partir de 2000 euros.
Ok, d'accord. Bah, écoute, je te remercie. Merci beaucoup, Louis. Souvent, les invités sont d'une façon générale très généreux avec les auditeurs de La Bonne Fortune, mais tu l'es peut-être encore un peu plus aujourd'hui. Je t'en remercie.
Avec grand plaisir.
J'aime bien demander, poser une question à mon invité du jour, savoir si tu as un mantra, une citation, une philosophie de vie qui t'accompagne, que tu aimes soit te répéter ou partager autour de toi.
Écoute, j'ai pas forcément de citation spécifique, mais je dirais, c'est quand même lié aussi au thème de l'investissement, que faut toujours s'investir au propre et au figuré dans des projets dans lesquels on croit profondément. Et moi, ce projet, il m'a tout de suite plu, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on me propose comme première opération sur Stryl. Non seulement parce que c'est une super opportunité d'investissement, je pense que, en tout cas j'espère que tout le monde sera convaincu après l'écoute de ce podcast, mais aussi parce qu'il est plus lié aussi à mon histoire personnelle avec l'industrie de l'hospitalité. Comme je disais, j'ai travaillé chez Accor. Et là donc on est vraiment dans le cadre aussi avec la location courte durée où on permet aux gens de vivre une super expérience à Paris avec des moments forts qui vont rêver comme les Jeux Olympiques. Donc pour moi, en tout cas de mon côté, toutes les conditions étaient réunies pour être très très heureux et ravi de proposer cette opportunité d'investissement. Ouais, j'invite aussi donc tous les auditeurs pour ces projets, les projets en cours et à venir, à regarder à la fois donc les aspects techniques, parce que c'est les plus importants, les aspects légaux, et aussi à choisir toujours des projets qui sont en accord avec leurs valeurs et les expériences qu'ils peuvent avoir envie de vivre.
Eh ben écoute, merci, le message est passé, donc oui, pour s'investir et au propre et au figuré, voilà, dans les projets qui nous font sens. Merci pour ça. Toi, à titre personnel, Louis, donc on comprend bien, on entend, et en effet, l'audience qui nous écoute aujourd'hui a bien senti ta passion sur tout le domaine de l'immobilier d'une façon générale, de l'accueil, du tourisme, ouais, d'une façon un peu plus particulière. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs sur lesquelles toi-même tu investis à titre personnel, autre que l'immobilier et le tourisme?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai pu faire plusieurs investissements. D'abord, plutôt en immobilier résidentiel classique, dans un schéma qui est celui de la SCI, une SCI familiale en l'occurrence.
Okay.
Donc c'est vrai que ça m'a permis de m'intéresser vraiment assez tôt à la dynamique de l'investissement. Je suis aussi un investisseur en crowdfunding immobilier.
Okay.
C'est vraiment un secteur, une industrie que je regarde depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ouais, on a quand même des porteurs de projets qui proposent des projets de grande qualité. Et dernier point aussi, alors j'ai pu être un temps investisseur dans des crypto-monnaies et j'ai eu la bonne idée de m'en séparer au moment haut du cycle quand le Bitcoin était à peu près à 55 000 dollars. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ces dernières années, je me suis quand même beaucoup plus recentré sur des classes d'actifs, on va dire plus sécurisées, avec un sous-jacent vraiment solide, et c'est le cas de l'immobilier fractionné. Donc aujourd'hui, je suis totalement investi en immobilier et plus dans ces classes d'actifs alternatives.
Ok, d'accord, cool. Bah écoute, merci pour voilà ta transparence en tout cas sur ton parcours qui était vraiment très très personnel. Merci de te livrer.
Ouais, avec plaisir.
Écoute, un grand merci pour cette émission passionnante en tout cas qui m'a donné envie de refaire une petite escapade parisienne prochainement et de profiter.
Mais écoute, avec plaisir, hein, on pourra t'accueillir.
Avec grand grand plaisir. Je te remercie. Si tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure cette très très belle émission, tu as carte blanche. Je te laisse le mot de la fin avec grand grand plaisir pour conclure cette magnifique émission, Louis.
Écoute, c'était un vrai plaisir partagé. Toujours très content en ce moment de parler de notre modèle, de parler d'immobilier fractionné, parce que j'ai la conviction personnelle que c'est un produit, un placement qui fait vraiment sens, particulièrement dans le contexte actuel, mais aussi à plus long terme. Je suis très sensible à cette mission de rendre accessibles des opérations qui étaient historiquement réservées à des professionnels, et aussi de rendre accessibles les classes d'actifs les plus performantes, donc en l'occurrence l'immobilier commercial. J'en dirai pas plus, mais voilà, j'invite vraiment les gens à venir sur notre site et surtout à nous poser toutes les questions qu'ils peuvent avoir. On est toujours intéressé d'échanger, de faire connaître le modèle, et on est aussi dans cette quête d'améliorer l'expérience pour nos investisseurs.
Ok, bah cool, super, le message est passé. Je mettrai encore une fois tous les liens dans les notes de l'épisode.
Génial.
Et celles et ceux qui souhaitent pousser un petit peu cette discussion, avec moi, ils peuvent le faire sur LinkedIn, et avec toi ou sur Instagram, et avec toi sur LinkedIn essentiellement également.
Bien sûr, ouais, toujours joignable.
Ok, super, bah, mille merci. Je n'oublierai pas de te faire part également des prochains projets. Je t'en avais déjà parlé un petit peu, vu que tu es amateur notamment du crowdfunding sur des projets d'opérations, certainement aussi de marchands de biens qu'on va bientôt aussi proposer voilà, avec les copains sur La Bonne Fortune.
Super.
Je te ferai part de tout ça avec plaisir aussi.
Avec plaisir.
Mille merci pour ton temps, pour ta disponibilité, et je vous dis à tous et à toutes, à très très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.
Merci, Smaël.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!